Asia Herzi Eris Kaltenbach, bonjour. Donc très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie le 31 janvier du Ravissement, film Eris que vous avez déjà présenté à tournée lundi dernier au Ramdam Festival. Alors avant tout, félicitations quand même, hein, un prix Lumière pour cette première mise en scène. C'est ça va, vous tenez bon?
Ouais, je suis très heureuse, on est très heureuse et puis surtout c'est un très bon signe parce que j'ai l'impression que 2023 était concentré sur la sortie nationale du film et que maintenant le film s'ouvre au monde avec et ça commence très bien avec ce prix Lumière.
C'est clair. Quand vous avez écrit le scénario, vous aviez directement pensé à Asia?
En fait, j'écris jamais en pensant à des comédiennes, mais par contre, dès que j'ai pensé à Asia, ça m'est apparu assez, ça m'est apparu, ouais, et très fort, quoi. J'ai senti, quoi.
C'est vrai que quand je vois vos films en tant que réalisatrice, Asia, je trouve qu'il y a quand même des thèmes qu'on peut un peu retrouver dans le film d'Iris, notamment Nora dans la bonne mère ou la fille maternelle dans Lila, non ?
Même les scènes de famille, ouais. Les repas.
Et est-ce que vous étiez fait pour vous rencontrer finalement, non ?
Bah oui, il faut croire. Ouais.
Non, franchement, en plus, même les acteurs qu'elle a choisis, c'est des gens que moi j'aurais pu prendre. Même mon agent, il m'a dit, notamment dans la scène de famille, il m'a dit, tiens, la mère, ça c'est quelqu'un qui t'aurait plu. J'ai complètement été sûre.
Alors, donc, on va aborder le monde des sages-femmes. En fait, je me suis rendu compte en regardant votre film que la sage-femme, c'était la première femme qui touchait le bébé et qui avait ce contact privilégié. Finalement, qui passait avant la mère, mais qui par contre avait une sorte deuxième cordon à couper quand elle remettait le bébé à la mère, proprement dit, non ?
Oui, tout à fait. Et en fait, ce que je trouvais très beau, c'est qu'effectivement, on parle souvent de la mère qui enfante, mais en fait, il y a à l'origine de la naissance d'un être humain, il y a souvent deux femmes, et il y en a une qui accueille l'enfant au monde en premier. C'est la sage-femme et je trouve et elle passe l'enfant. Il y a un geste très beau de passation en fait, de présentation que je trouve sublime en fait cinématographiquement quand on y pense. Et donc j'avais très envie de filmer ça et de parler de cette femme qui accouche les mères et qui leur offre leur enfant et ce geste là. Qui va, en fait, après, dans le film, se retourner un peu.
Mais il y a une frustration dès le départ, finalement, alors. On reçoit ce cadeau et en même temps, on doit directement le donner, non ?
Pour le personnage, non.
Ouais.
Non, parce qu'au départ, je pense qu'elle a pas forcément. Enfin, elle rêve pas de maternité. C'est plus un personnage, mais un peu seul, en manque d'amour, qui vient de vivre une rupture. Donc non, au début, c'est son quotidien, c'est son travail. Mais c'est sûr que toute la journée, elle est entourée.
C'est inconscient, non ?
C'est peut-être inconscient. Ouais.
Parce que finalement, Milos, donc, qui est interprété par Alexis Malanti, donc, qui joue votre petite amie, lui dit « J'ai jamais imaginé être père, je m'en sentais incapable. » Je me demandais finalement si Lydia, à force de voir des bébés, n'avait quand même pas, c'était pas inconscient et quasi inévitable qu'elle ait cette envie de maternité.
Ah oui, mais après, je pense comme toutes. Après, il y a des femmes qui ne veulent pas aussi, mais
oui. C'est pas inévitable parce qu'il y a plein de sages-femmes qui ne ressentent pas cette frustration et qui n'ont pas envie d'être mère. Je pense que Lydia, c'est quelque chose qui vient aussi parce que tout d'un coup, c'est l'enfant de sa meilleure amie qu'elle aime profondément, que c'est un moment dans sa vie où elle se sent très seule, où elle trouve une existence, une fonction avec cet enfant. Elle trouve des regards, elle est regardée différemment quand elle porte cet enfant dans les bras, et que c'est tout ça qui va participer et coïncider. Quoi.
Ouais. C'est vrai qu'il y a une spirale des mensonges qui finalement est au départ incompréhensible, quoi, finalement.
En fait, au départ, il y a un quiproquo. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Dans le film,
l'ascenseur.
Je joue avec l'image d'Épinal de la Madone, quoi. C'est-à-dire, Asia, elle est dans cet ascenseur, elle tient cet enfant dans les bras comme une Madone. Et en fait, c'est le regard des autres, au départ, de la société, qui lui dit « tu es mère ». Et notamment Milos qui pose un regard et qui lui la félicite d'être mère. Et c'est à partir de là, de ce premier quiproquo, qu'elle s'abandonne, en fait, qu'elle est ravie à elle-même et qu'elle s'abandonne à cette image, à cette fonction, et que petit à petit, elle va s'en emparer pour faire un mensonge. Mais au départ, effectivement, il y a un glissement très, très progressif, quoi.
L'accouchement que vous filmez, c'est quand même une scène très forte et on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie.
J'ai été formée et toutes les images qu'on voit dans le film en maternité, c'est vraiment des mamans qui allaient accoucher. On a tourné ça un peu en mode documentaire avec l'accord des mamans, donc j'étais tout de suite, jetée dans le tas, quoi, avec les sages-femmes. J'avais une sage-femme, enfin, il y avait une sage-femme, on était avec elle, on suivait ses gardes, on va dire référentes. Et j'ai vraiment assisté à des vrais accouchements, des visites. J'ai même aidé lors d'un vrai accouchement. Enfin, j'ai tenu le drap, aidé une dame à tirer, quoi. Donc, c'était très intense.
Et vous êtes maman de Noam qui va bientôt avoir 3 ans.
Oui, 4 ans.
Et votre expérience en tant que mère, est-ce que ça vous a nourri est-ce que vous a permis finalement de faire ce film
hein? Je pense que ça m'a rassurée en tout cas, vu qu'il y avait des vrais bébés aussi. Ça m'a rassurée en tout cas. Voilà, avec les bébés, je ne sais pas si avant j'aurais pas eu peur, comme le personnage de Milos, de prendre un bébé dans les bras, de l'avoir contre moi. Mais c'était très agréable. Hein. Moi j'adorais ces moments-là.
Ouais. Facile à tourner ?
Le film ?
Non, mais je veux dire ces scènes-là.
Ah, les scènes de maternité ?
Ouais, ouais.
Au final, c'était pas ce qu'il y avait de plus dur, parce qu'en fait, le réel était là, il était très riche, et qu'en fait, il fallait juste... Enfin, juste, il fallait se... On était là à les regarder, à interagir avec elles, mais je veux dire, c'est finalement... Je dirais que c'était pas ce qu'il y avait de plus dur sur le tournage. Mmh.
J'adore votre titre. C'est une ambiguïté fatalement. Donc il y a ce côté ravissement, extase, admiration, et en même temps totalement ravisseur. C'est Duras qui et sa Lola Valéry qui vous a inspiré le titre.
Oui, tout à fait. Lola Wehstein. En fait. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, et je trouvais très très beau en fait la réaction dans la scène du bal où Lola Wehstein voit son fiancé tomber fou amoureux d'une autre femme. Je trouvais très beau sa réaction d'oubli, de ravis. Elle est ravie à elle-même, c'est-à-dire elle est dans le déni presque, et elle assiste et même elle est subjuguée par ce qui se passe devant elle. Et finalement cette blessure qui au départ n'est pas actée, on va dire, va venir la hanter pendant tout le roman. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée, cette idée en fait du ravissement dans l'amour, quoi, que l'amour peut provoquer une forme d'oubli de soi et d'être ravi à soi, et que derrière, c'est ce que je suis partie de ce point de départ pour le personnage du film, qui vit aussi une rupture amoureuse et qui en fait au départ ça a pas l'air, elle en parle pas à sa meilleure amie, voilà, et petit à petit en fait cette blessure va venir la hanter et va ressurgir ailleurs, quoi.
C'est vrai qu'il y a le thème de l'amour, mais il y a surtout le thème de l'amitié, qui est énorme, la trahison. Enfin, est-ce que c'est une trahison, vous percevez comme ça, mais est-ce qu'en soi objectivement, si on avec un peu de recul et...
Non, je pense que oui, il y a quand même une trahison. Elle a trahi sa confiance, mais je pense que, en tout cas, mon personnage, elle n'a pas réfléchi quand elle a fait son geste. Je pense que vraiment.
C'est la fameuse spirale, là.
C'est ça. Elle a dû réfléchir, mais pas trop. Et elle voulait juste vivre quelques moments où elle se sentait aimée, en famille. C'était que pour quelques moments d'amour. Elle savait très bien que ça allait s'arrêter. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle appelle et qu'elle dit où elle est. Elle est consciente et inconsciente. Ouais. Ouais. Elle est consciente et à la fois inconsciente.
Dernière question. Il y a une belle expression au début, étranger familier. Mm. C'est finalement notre mal du siècle, non?
Oui, en tout cas, c'est marrant, ça résume assez bien le rapport que je voulais qu'il y ait entre tous les personnages, c'est-à-dire à la fois raconter trois solitudes qui se côtoient et qui en même temps se comblent jamais vraiment. Et donc cette idée d'être, c'est tous des étrangers familiers entre eux.
Asia Iris, un grand merci. Donc on rappelle le ravissement qui sort le 31 janvier. Oui. Merci.
Merci à vous.